last year Sidney Lumet was here, and he had a very good time. So I said yes this year, and I'm happy to be here.
The only relationship to a Hollywood studio is whether the picture makes money. If it makes money, there's no problem. It could be about the beautiful life of Fidel Castro. They would do it if they thought it would make money.
Au sommaire de ce deuxième épisode du journal du Arras Film Festival, on terminera par un agenda du jour avec quelques rencontres en compagnie des équipes des films. Un extrait de l'interview réalisée par le réalisateur Michel Hazanavicius pour évoquer son premier long métrage d'animation, La plus précieuse des marchandises, qui était proposé en avant-première. Mais tout de suite, on retrouve Patrick qui nous propose une chronique sur le film Aïcha.
Aïcha est un film franco-tunisien réalisé par Mehdi M. Barsaoui qui nous avait régalé avec Un fils, son précédent long métrage projeté à Arras. Vous pourrez voir Aïcha à l'Arras Film Festival le vendredi 16 novembre à 11h. Une jeune femme vivant dans la région de Tozeur au sud de la Tunisie travaille au service d'entretien d'un grand hôtel pour touristes. Ses parents envisagent de la marier avec un homme plus âgé qui leur apporterait un peu plus de confort financier dans leur existence précaire. Lors d'un trajet domicile-lieu de travail, un accident offre à la jeune fille la chance de disparaître et de mener une nouvelle existence à Tunis. Elle loue une chambre en ville chez une jeune femme très moderne qui l'entraîne dans les bars branchés de la capitale en compagnie d'hommes riches et influents.
Exemple même tu t'en tiens, on fait la fête pour elle. Pas d'hypocrite, pas de nia, et c'est pas de jaloux.
Suite à un regard trop appuyé en direction d'un garçon, une bagarre éclate, causant la mort de ce jeune dans des conditions suspectes. La police presse la jeune femme de témoigner qu'elle a été agressée sexuellement pour justifier la violence meurtrière dans laquelle sont impliqués des policiers qui travaillaient au noir comme vigiles dans cette discothèque. La jeune fille, qui a choisi une fausse identité, se retrouve obligée de mentir pour préserver sa liberté, mais la famille du jeune homme tué hurle au scandale dans les rues et sur les réseaux sociaux. Passée sous différentes identités, Aïcha parviendra-t-elle à échapper à la police, aux menaces populaires, mais aussi à la perfidie des soi-disant protecteurs. Le réalisateur, qui situe ce film après la révolution tunisienne, met en évidence l'évolution encore timide du statut de la femme, dénonce les rouages de la corruption qui gangrènent toute la société et évoque le rôle des réseaux sociaux dans l'évolution du pays. Un film durant lequel on n'a pas le temps de s'ennuyer en raison des multiples rebondissements d'une intrigue fort bien menée. Si vous l'avez raté à l'Arras Film Festival, il vous faudra attendre le 19 mars 2025 pour voir sa sortie sur les écrans nationaux.
Je vous propose à présent un extrait de l'interview réalisée avec le réalisateur Michel Hazanavicius pour évoquer son premier long métrage d'animation, La plus précieuse des marchandises, proposé en avant-première. Un extrait de l'entretien co-réalisé avec Carole Légevin de Radio Scarpe Sensé et Christian Novicki de L'Avenir de l'Artois, qu'on écoute juste après la bande-annonce du film.
Il était une fois, dans un grand bois, un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne. Le froid, la faim, la misère leur rendaient la vie bien difficile. Et puis, un jour,
qu'est-ce que c'est que ça? Ne sais-tu pas à quelle espèce il appartient? C'est un sans-cœur.
Ils sont 41 cœurs.
Michel Hazanavicius, bonjour.
Bonjour.
C'est votre premier long métrage d'animation. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Pourquoi justement ce choix d'avoir choisi l'animation pour ce film?
Alors oui, en effet, c'est mon premier film d'animation. C'est l'adaptation d'un livre de Jean-Claude Grimbert qui est écrit sous la forme d'un conte et qui raconte l'histoire d'un couple de bûcherons qui vit dans la Pologne des années 40, donc pendant la guerre. Ils sont très pauvres, ils vivent dans une forêt, et leur forêt est traversée par des trains dont on comprend assez vite que ce sont des trains de déportés qui vont vers un camp d'extermination. Et un jour, un enfant, un bébé, est jeté de ce train, et la bûcheronne va récupérer cet enfant. Elle va vouloir le garder, le bûcheron, ça va être plus compliqué. Et le film va raconter l'histoire sous la forme d'un conte de ces destins, celui de la bûcheronne, celui du bûcheron, celui de l'enfant, mais aussi celui de l'homme qui a jeté son enfant pour le sauver, pour lui épargner la destination de ce train. Et voilà, donc c'est une histoire que j'ai trouvée bouleversante en la lisant. C'est ce que me disent aussi les spectateurs quand ils voient le film. Il évoque ce que l'homme et la femme ont de meilleur, mais aussi ce qu'ils ont de pire en eux, ce que nous avons de meilleur, ce que nous avons de pire, ce dont nous sommes capables. Le pire étant évidemment les camps de la mort qui sont évoqués dans ce film. Le meilleur étant ces personnages de juste, ces gens qui ont pendant la guerre sauvé des juifs et ce faisant qui ont sauvé l'honneur de l'humanité. Donc c'est un film, même s'il y a un contexte dramatique, c'est un film solaire, c'est un film qui va vers la vie, tout le temps tourné vers la vie. Quand je le résume, je dis que c'est plutôt une pulsion de vie ce film.
Vous avez été bouleversé par cette histoire et vous ne pouviez l'envisager que sous la forme du dessin animé. C'est ce qui collait le mieux à ce qu'on appelle un conte.
Oui, c'est même au-delà de ça. C'est que l'auteur lui-même, Jean-Claude Grimbert, avait dans l'idée que ce serait un film d'animation. Donc on me l'a même présenté comme ça. Mais c'était une évidence. Il n'y a pas eu l'ombre d'une discussion à ce propos. Parce que, comme je vous disais, dans l'histoire, il y a deux pôles. Il y a le pôle du conte, avec des personnages qui n'ont pas de nom, des lieux qui sont presque intemporels et presque indéfinis, même si on sait exactement de quoi il s'agit. Et puis, il y a un pôle un peu plus qui s'appuie sur une réalité historique, celle de la guerre, celle des camps, celle du génocide juif. Alors, pour ce qui est du conte, évidemment, l'adaptation est totalement adaptée, puisque c'est des images qu'on connaît, que ce soit des illustrations de livres ou que ce soit les premiers Disney. L'univers du conte est souvent associé à l'illustration et à l'image fabriquée, dessinée, bien plus que à des êtres humains. C'est-à-dire que quand on pense à une sorcière ou à un ogre ou au petit pousset ou au petit chaperon rouge, on ne pense pas à des êtres humains, on pense plus facilement à des images dessinées ou peintes, suivant les cas. Pour ça, donc, l'animation était évidemment la plus adaptée. Pour ce qui est de la réalité historique et des camps, il y a la problématique de la représentation des camps et de la déportation au cinéma, c'est un véritable sujet. Et effectivement, l'animation est un endroit de narration où la suggestion et l'évocation sont, comment dire, peut-être plus simples. Pour représenter les camps, vous ne pouvez pas représenter ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas représenter la réalité de ce qui s'est passé parce que c'est insupportable et c'est irreprésentable. Et vous ne pourrez jamais représenter l'ampleur de ce qui s'est passé. En revanche, si vous représentez autre chose, si vous racontez autre chose, il y a le risque d'une forme de mensonge, le risque d'une forme d'édulcoration de l'horreur de ces camps. Alors la clé, la voie à suivre, c'est celle de l'évocation, celle de la suggestion, et celle qui fait appel à l'intelligence du spectateur et à sa connaissance des faits. Et pour ça, l'animation, là encore, c'est le meilleur moyen de donner des clés au spectateur sans lui montrer d'image explicite et de lui évoquer, de lui suggérer ce qui s'est passé. Et donc, on n'est ni dans une forme d'obscénité, ni dans une forme de mensonge.
Il y a, par exemple, quelque chose qui m'a beaucoup touchée, cet enfant qui est lumière. Il apporte plein de choses. Donc, c'est une belle marchandise qui est offerte par les dieux. Cette évocation des dieux, elle est très importante.
Tous les personnages ont un trajet dans les films. Le bûcheron, lui, au départ, il va être, il reflète l'antisémitisme ambiant, c'est-à-dire, il pense que les personnages... Alors, dans le film, les juifs ne sont pas appelés les juifs, ils sont appelés les sans-cœurs. On ne dit jamais le mot juif, on ne dit jamais le mot nazi, on ne dit jamais le mot Auschwitz, parce que nous sommes dans un conte. Il y a peut-être le mot Pologne au début, mais pendant la deuxième, on parle de la Seconde Guerre mondiale, mais on est dans cet univers universel qui est celui des contes. Et alors le bûcheron, lui, il va faire ce trajet vers cette petite fille, justement parce que cette petite fille, c'est comme une vague d'amour ou de lumière, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire, elle va provoquer comme ça de l'amour sur son passage. La bûcheronne, elle, c'est un petit peu différent parce qu'elle, dès le début, elle veut sauver cet enfant. Mais effectivement, elle va comprendre, et c'est là où on rend hommage au juste, elle va comprendre que ce n'est pas l'œuvre des dieux, que en fait tout ça c'est l'œuvre des hommes. C'est les hommes qui sauvent les enfants, c'est les hommes qui font le mal, c'est les hommes qui font le bien. Et elle va partir de cette idée que ce sont les dieux du train qui lui ont jeté une petite marchandise, et elle va se rendre compte que non, c'est un homme qui a jeté un enfant d'un train de déportation. Et que c'est un autre homme qui a aidé à la sauver, son mari, et qu'il y a encore un autre homme après qui va l'aider. Et il y a une chèvre qui lui a donné du lait. Et elle va se rendre compte que tout ça, c'est des êtres humains, pas dans le cas de la chèvre évidemment, mais tout ça est très concret, et c'est, tout ça est une affaire de choix. Et c'est ce que le film nous raconte, c'est que même dans des situations catastrophiques, même quand on a l'impression que le monde entier part en lambeaux, ou en tous les cas l'éthique du monde, la morale du monde, on a l'impression qu'elle s'écroule, eh bien on a encore la possibilité de faire des bons choix, et le choix de la dignité.
Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview très prochainement sur le www.radiopfm.com. On continue avec l'agenda et quelques séances avec invités pour ce mardi 12 novembre. À 13h30, Une jeune fille qui va bien de Sandrine Kiberlin au Casino Salle 1. Et comme c'est l'une des invitées d'honneur sur cette 25e édition, il y aura également une rencontre avec Sandrine Kiberlin au Megarama Salle 1 à 16h. À 13h30 également et toujours au Megarama Salle 1 au Pays de nos Frères, co-réalisé par Raha Amir Fazli et Alireza Ghashemi, film iranien en coproduction avec la France et les Pays-Bas, proposé dans la catégorie Cinéma du Monde et qui pose un regard âpre mais humain sur la difficulté pour des individus de s'intégrer dans un monde sans compassion. Il y aura une rencontre avec le co-réalisateur Alireza Ghashemi à l'issue de la séance. À 18h30, dans la catégorie Vision de l'Est, toujours en salle 1 du Megarama, After Party de Wojciech Strakati, proposé dans le cadre du focus sur le cinéma tchèque et qui raconte le parcours d'une jeune fille de 23 ans qui bascule dans une course contre la montre pour venir en aide à son père face à des huissiers. Mais pas que. Rencontre avec les actrices Eliska Bazunova et Anna Tomanova à l'issue de la projection. Au Casino d'Arras, salle 1 à 21h, une avant-première avec le Panache de Jennifer De Volder, une comédie familiale sur la tolérance et le dépassement de soi à travers le théâtre et l'art oratoire. Rencontre avec la réalisatrice et l'acteur Joachim Arcegel après la projection. Et puis enfin, le ciné-concert La Princesse aux Huîtres, film allemand de 1919 de Ernst Lubitsch, est revisité en musique par Jacques Cambra et des élèves du Conservatoire d'Arras. Et ça se passe à la chapelle du Conservatoire du Pôle Culturel Saint-Pierre à 19h. Le journal du Arras Film Festival, là, c'est terminé pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous avec le troisième épisode dès demain.